Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast saison 3 épisode 16. On se retrouve Thibaut et moi, salut Thibaut.
Salut Guillaume.
Pour parler de films comme d'habitude. Et c'est un peu une période particulière, c'est un peu a most wonderful time of the year. Tu vois cette chanson là parce que c'est...
C'est passé ça.
Non mais je sais, mais c'est pour les cinéphiles comme nous et comme vous.
Ah oui.
C'est la période où on a toutes les nominations, les Oscars, les Magritte, toutes ces choses là, les strass, les paillettes.
Je crois que les gens sont surtout très excités par les Magritte effectivement.
Oui. Bah en Belgique, chez nous, c'est incontournable comme événement. Nous, on est excités parce que c'est quand même l'occasion de se retrouver entre cinéphiles au Square à Bruxelles, un chouette endroit où on a la cérémonie, cette année présentée par Cody. On avait fait d'ailleurs une émission l'année passée avec les différentes nominations avant la cérémonie, que vous pouvez réécouter d'ailleurs, hein, si vous voulez un peu savoir, vous mettre à jour qui était là l'année passée et qui sera là cette année. Ça, c'est dans cet épisode-ci, on en parlera. Mais on ne va pas parler que des paillettes et des stars, etc. On va parler de films et on va commencer par Judy aujourd'hui, un film de Rupert Gould avec Renée Zellweger, Madame Bridget Jones, qui a bien changé, hein, on en parlera, puisqu'elle incarne Judy Garland. Judy Garland, c'est entre autres hein, la femme qui, dans son enfance, dans sa jeunesse, avait joué dans Le Magicien d'Oz, et puis après, elle a fait plein d'autres choses, hein, notamment la chanson Over the Rainbow, vous connaissez cette chanson, c'est elle aussi, et donc ce film parle de Judy, vers la fin de sa carrière, hein, donc c'est pas la Judy du Magicien d'Oz, c'est la Judy d'après. On en parlera dans le podcast. On aura aussi un petit extrait de l'interview avec Rupert Gould que tu as rencontré, je pense que c'était à l'époque du festival de Gand.
Tout à fait, tout à fait.
Et on aura l'épisode complet, l'interview complète ce week-end sur Cinécast. On parlera forcément des Oscars, ensuite on enchaînera avec le film qui s'appelle Les Siffleurs. On parlera après des Magritte et on terminera cet épisode par Adoration, un film, si je ne me trompe pas, d'animation.
Petit comique.
Je sais. On aurait pu y croire avec Adoration.
Oui, mais non. Ça ne va pas être très animé.
Non, pas du tout. Je sais. On enchaîne tout de suite, quand même, avant de commencer cet épisode, par le concours UGC. On va la refaire. Pas depuis le début, mais Monsieur Couré.
Tu pensais vraiment que c'était un film d'animation ?
Oui.
Mais non, c'est le film de Fabrice Duhels.
Mais putain, mais sur l'affiche, il y a des animations.
Mais non, c'est du dessin, mais c'est pas de l'animation.
Alors, où est-ce que j'étais? Ah oui, on terminera cet épisode. Et on terminera cet épisode par le film Adoration de Fabrice Duhels, dont on va parler ensemble, Thibaut, en fin d'épisode. Mais avant de commencer les hostilités et de faire la revue de presse habituelle, parlons du concours UGC, puisque chaque semaine, en écoutant Cinécast, vous pouvez gagner 2 places de cinéma UGC. Et on félicite Alexandre Boucher, qui a commenté la vidéo de 1917, qui remporte les 2 places. On va te contacter très prochainement, Alexandre, en espérant que tu es belge, parce que oui, le concours n'est valable qu'en Belgique, donc si tu es français, on fera gagner quelqu'un d'autre, pas de problème. Et si vous voulez participer au concours, c'est très simple, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Cinécast, et likez et commentez la vidéo critique de Judy, donc le film de la semaine, en tout cas le film d'ouverture de ce podcast. Je propose qu'on ne prenne pas de minutes et qu'on enchaîne tout de suite avec la revue de presse. La revue de presse comme chaque semaine, on commence par le box-office, un petit tour en France, où il n'y a pas eu beaucoup de monde hein, sur le palmarès, il n'y a pas eu beaucoup de changements, c'est vrai que c'est un peu plus lent en janvier au cinéma. Donc le top 5 est le suivant, Les Veto en 5ème position avec 145 000 entrées, Jumanji Lex Level avec 150 000 entrées, il va bientôt atteindre les 3 millions en France, donc ça reste une très forte performance pour la suite de Jumanji. Les Filles du Dr. March, Little Woman de Greta Gerwig, 155 000 entrées, pour 400 000 entrées bientôt en France,
total.
Tout à fait, et vu que c'est un film dont on parlera dans la liste des Oscars, peut-être que ça va l'aider un peu à continuer ses performances, ou en tout cas à gagner un peu plus de public en France, parce que c'est un démarrage quand même assez discret.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Tout à fait. Deuxième film, c'est Underwater, un film que tu as vu, il paraît, ce week-end. T'as été en France pour aller voir ce film, carrément.
Oui. Presque. J'ai pas été en France pour ça, mais oui, je l'ai rattrapé ce week-end.
On en parlera très prochainement dans le podcast. 170 000 entrées.
Je suis pas sûr, parce qu'il sortira pas
chez
nous.
Sortira pas. Après l'occasion du bif, alors peut-être. On verra.
C'est pas impossible.
C'est pas impossible. 170 000 entrées pour ce film-là. Et premier film, Star Wars, l'ascension de Skywalker, qui continue sa performance. 335 000 entrées pour 5,5 millions de cumuls. On arrête de parler pognon et d'entrées, et on parle un tout petit peu, hein, avant de plonger dans le premier film de la semaine, d'actualité ciné. puisque au-delà bien sûr des problèmes, hein, notamment des cas d'agressement sexuel, parce qu'il y a eu 2-3 nouvelles dans ce milieu-là en France, notamment...
dans le milieu de l'animation.
Exactement, entre autres. Mais n'en parlons pas.
Pas de mauvaises nouvelles.
Ah voilà, c'est les nominations. Aujourd'hui, on est là pour parler de la joie du cinéma. Cannes 2020, hein, le festival de Cannes de cette année, a annoncé son président. Et c'est Spike Lee qui sera sur la croisette. Je pense que c'est un grand ami de la croisette et qui sera là cette année-ci pour présider, tout simplement.
Le jury, effectivement.
Présider le jury, on n'en sait pas plus, hein, pour l'instant, mais en tout cas, c'est assez sympa, assez prestigieux d'avoir Spike Lee pour représenter le festival. On a hâte de voir la programmation, mais c'est pas pour tout de suite, ça.
Non, on a encore un peu de temps pour ça.
Et si on commençait cet épisode, du coup, par le premier film, Judy, de Rupert Gould. Film, donc, je l'avais dit, avec Renée Zellweger, Jesse Buckley, Finn Wittrock, entre autres. Film britannique, hein, produit notamment par la BBC. Ils sont partout. Hein, dès qu'il s'agit d'un film britannique, en général, la BBC n'est pas loin. Et c'est un film assez intéressant, puisqu'il nous plonge dans... La vie de Judy Garland quand elle débarque à Londres pour se produire dans une sorte de last show. Enfin, en tout cas, c'est une tournée un peu sur le tard. Hein. C'est clairement pas la tournée de l'âge d'or, c'est plutôt une tournée de fin de carrière. Elle vient clairement se faire du fric, hein, à Londres. En tout cas, c'est ça son intention première, parce qu'elle veut retrouver ses enfants, elle a perdu un peu la garde de ses enfants, elle est dans de sales draps, notamment parce qu'elle se comporte pas spécialement bien. Hein, elle boit, elle fume, enfin forcément fumer, bon, ça c'est pas encore trop grave, mais c'est pas la femme la plus fiable du monde, on va dire ça comme ça.
On va dire que c'est pas la mère idéale, c'est pas le meilleur exemple en tout cas.
C'est pas la mère idéale, c'est pas non plus la vedette idéale, parce que bah, c'est pas évident de travailler avec elle, et on va voir ça dans le film, que travailler avec Judy Garland, surtout à cette époque-là de sa carrière, c'est pas du gâteau.
C'est la toute fin de sa carrière, c'est la fin de sa vie d'ailleurs.
Tout à fait, puisqu'elle est décédée quelques semaines après ce qui se passe ici dans le film, donc c'est pas une surprise, hein. Elle est morte assez jeune d'ailleurs, hein. Elle est morte une quarantaine d'années,
oui,
quelque chose comme ça.
Oui, dans la quarantaine d'années, je pense.
Et donc, mais... clairement, le film explore aussi pourquoi, hein, pourquoi est-ce qu'elle est comme ça, son enfance, forcément, dans le milieu du système hollywoodien. Mais je propose qu'on s'écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce.
I'm sorry it's so late.
Miss Carr.
No, please. I'm Judy.
Your suite has been released.
What do you mean, released? Where exactly has it gone?
Your account was in arrears.
Clang, clang, clang with the trolley.
Mama, please don't go to sleep now.
No, leave the other ones.
Kids need a home, Judy.
I know what kids need. They need their mother.
We can't have the world's greatest entertainer out here without a drink.
Frank Sinatra's here?
Frank is great, but he is no Judy Garland.
I don't have a home. I can't even get a manager.
London would offer you a lot of money.
You're saying I have to leave my children if I want to make enough money to be with my children?
Judy, Thibault, c'est un film qu'on a vu tous les deux. On va pouvoir en parler et échanger nos points de vue. Wouh! Sur ce film-là. Film, je dois dire, qui m'a surpris. Notamment parce que Renée Zellweger chante et qu'elle chante remarquablement bien. Donc ça, c'est quand même un des premiers points à dire, c'est qu'elle arrive à incarner Judy Garland de manière très, très convaincante.
Mais on savait qu'elle savait chanter.
Oui, mais bon.
Chicago.
Oui, d'accord. Ça date quand même.
Ça date d'hier. Enfin, ça fait 20 ans, mais enfin, quand même.
On ne sait jamais.
Donc c'est quand même bizarre de... que certains se posent la question de savoir si Renée Zellweger chante dans le film ou pas. Oui. Si elle chantait pas, tu fais pas le film.
Ah, ça c'est sûr.
Que ça.
Là, hein, si tu ne chantes pas pour ce film-là, c'est compliqué. Non, ça c'est sûr, c'est vraiment un film qui nous montre les plus grands numéros. J'ai envie de dire, Judy Garland, les plus grandes chansons de sa carrière sont dans ce film.
Ouais.
Donc déjà, si vous aimez le répertoire de Judy Garland, vous allez être servi. Mais le film ne s'imite pas à ça. Il raconte vraiment toute une autre histoire, cette histoire d'enfance un peu gâchée. Par le système hollywoodien et par tout ce qu'on lui a fait faire quand elle était jeune.
Exactement.
Voilà.
Je pense que tu ne pouvais pas le mieux résumer.
Oui, puisque vous n'êtes pas censé le savoir, ou vous ne savez sans doute pas, mais lorsqu'elle a fait le Magicien d'Oz, elle avait quoi, 16-17 ans, et elle a été complètement coupée du monde, hein, dans les studios hollywoodiens, elle vivait là-dedans carrément, elle devait prendre des pilules, des cachets à gauche à droite, rester mince, ne pas manger de gâteaux, ne pas faire son anniversaire, enfin, clairement une enfance rêvée. Hein.
Ah, les gâteaux, ça c'était...
C'est ça, c'était
quelque
pas
chose,
bon.
Hein.
Une enfance rêvée, et c'est clair que tout ce manque de fun et d'affection, elle s'est bien rattrapée après sur la suite, puisqu'elle est devenue alcoolique, mère irresponsable, qui emmène ses enfants à des soirées jusqu'à 6h du matin pratiquement. ou qui les fait danser dans des cabarets pour gagner un peu d'argent. Donc clairement, elle n'est pas au top de sa carrière, mais on lui propose, comme on l'avait dit, cette dernière tournée en Angleterre où là, elle va rencontrer son public qu'elle avait perdu.
Mmh. Tout à fait.
Qu'est-ce qui, toi, au-delà de l'histoire, parce que c'est sur quoi on a beaucoup insisté maintenant dans cette critique, hein, c'est parce que ça nous a touché et surpris, qu'est-ce qui t'a plu en termes de, bah, du film dans son ensemble et de la réalisation notamment de Rupert Gould?
La première chose que j'aime beaucoup du film, c'est qu'il s'intéresse à une partie plus méconnue de la vie de Judy Garland, qui à ce moment-là de sa vie et de sa carrière n'est plus l'illustre star qu'elle fut un jour, effectivement, très jeune avec le Magicien d'Oz. Donc ça, c'est le premier point. Et c'est hyper important, on le dit à chaque fois qu'on parle d'un biopic, c'est que voilà, ici on parle d'un moment très précis de la vie de quelqu'un qui n'est pas forcément le plus connu en plus. Donc vraiment, c'est une très bonne chose. Après, il faut savoir que Rupert Gould, c'est quelqu'un qui vient plutôt du théâtre de base. Et, il a fait énormément de pièces, Shakespeare, etc., enfin la totale. Il a fait beaucoup moins de choses au cinéma. D'ailleurs, ce n'est que son deuxième long métrage. Le premier s'appelait True Story. C'était avec une histoire de meurtre avec James Franco et Jonah Hill, plutôt pas mal, qui se trouve d'ailleurs sur une certaine plateforme de streaming, enfin de SVOD en tout cas.
Doudoum. Est-ce qu'elle est rouge?
Tout à fait. Et donc c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à des choses, des faits historiques, des figures, oui, historiques, que ce soit dans ses pièces de théâtre ou dans ses films ou téléfilms, parce qu'il a fait pas mal de téléfilms aussi. Et donc tu vois que c'est quelqu'un qui est assez doué pour parler de personnes réelles qui ont un vécu réel et pas fictionnel. Et que du coup, tu peux pas faire ce que tu veux, que ce soit dans l'écriture du scénario ou dans la mise en scène. Et ça, je trouve ça, ça se sent vraiment dans sa façon de filmer, sa façon d'être près des personnages, de raconter certains moments de vie, etc. Donc ça, c'est une très bonne chose aussi, je trouve, parce que voilà, comme sa carrière est surtout au théâtre, c'est pas, on ne connaît pas Rupert Gould comme étant un grand réalisateur, forcément. Et je trouve que voilà, il est très très précis dans ce qu'il fait au niveau de sa mise en scène et de la véracité historique. Donc ça, c'est un point qui m'a beaucoup plu en tout cas dans le film.
Maintenant, à côté de ça, bon, s'il a l'expérience du théâtre, l'avantage de faire un film comme Judy, c'est que tout se passe dans cet environnement-là, hein, de la troupe de théâtre, enfin en tout cas les répétitions, les décors, et même beaucoup de scènes sont soit dans une chambre d'hôtel, soit dans le théâtre, mais il n'y a pas 35 endroits. Enfin, c'est un film vraiment très... on a l'impression de connaître les endroits où ils sont, tellement on les voit et on les fréquente avec les personnages. Donc c'est un film qui arrive à nous mettre assez vite dans son histoire, notamment parce que je trouve que Renée Zellweger a ce charme. Elle étonne, elle épate, et t'as envie de l'aimer, même si tu sais qu'elle exagère ou qu'elle abuse ou que c'est clairement pas quelqu'un de confiance. On ne peut pas s'empêcher d'avoir de l'affection pour cette femme qui est, on peut le dire, larguée oui, à ce stade-là de sa carrière.
Oui, et je trouve que c'est quelque chose en plus qui est... Il y a quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal au cinéma, c'est les personnages un peu hystériques. Mmh. Parce que forcément, le comédien doit aller dans le surjeu. Tu vois qu'il surjoue, en fait, d'une certaine façon, pour arriver à cet état d'hystérie qui est forcément pas normal. Donc voilà, c'est quelque chose avec laquelle j'ai du mal. Mais je trouve que Renée Zellweger le gère très bien dans le film.
Je pense qu'à l'expérience, hein, de jouer des femmes qui ont parfois des petits sauts d'humeur. Mais c'est vrai.
Je vois pas du tout à qui tu penses.
Je vous jure que quand on voyait ce film, il y a 2-3 moments, je me suis dit, oh, j'ai presque l'impression de voir Bridget, mais jouer différemment, bien sûr. Mais allez, c'est plus ou moins les mêmes mimiques parfois dans les expressions, genre, oh, mais c'est pas vrai. Enfin, tu vois, et tu dis, tiens, j'ai l'impression de reconnaître son visage, même si elle a perdu, genre, à mon avis, 15 kilos.
Ah, mais là,
minimum.
Elle est un peu fondue quand même dans le film.
Elle a vachement fondu. Et bon, c'est un peu refait le visage aussi, mais ça, n'en parlons pas.
Ouais, ouais. Mais oui, non, je trouve que Renée Zellweger est excellente dans le film. ça, je pense que ça saute aux yeux tout de suite quand tu vois le film. Ouais. Je suppose que ça, t'as eu la même chose. Tu dis waouh,
wow, quand même. Avec ses enfants, là, tu te dis oui. C'est, la transformation est choquante. Oui.
Ouais. Et alors, je sais pas si tu as eu la même réaction, mais à nouveau, ça m'a été assez évident juste après le film. C'est que pour moi, c'était vraiment une évidence qu'elle allait en tout cas être une des candidates les plus fortes pour les cérémonies de prix à venir. Bon, maintenant, depuis maintenant qu'on enregistre, elle a gagné le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique. Et j'en ai discuté un peu de ça avec Rupert Gould, donc je propose qu'on écoute un extrait de l'interview, en anglais, évidemment.
Look, I think her performance is really great. Like really, really unusually great. I knew it was on the day when we were filming. I was like, this is really, really good. Of course, you think, am I biased? But actually, the more I watch it, the more. And it was such a. It was like as a director, it was like. You know, her. She's like a Steinway, an incredible. There's so many notes that she has available to her, Renee. And I think, you know, as an actor, she has been asked to play, maybe a more limited. Set of her range than we were able to give her, partly also because she's older now, but I think the real joy was finding that each note I would give or each like thing we would discuss would find colors I'd never seen in her before, obviously in Judy, but also in all her movies. And to see an actor come back having spent 6 or 7 years away from the business. So she had the hunger and desire to find pleasure in her craft that a young actor has. But with all the experiences, someone who's made all the movies, I don't know. I mean, it'll take a great performance to be better than her, is all I'd say.
Oui, tu le disais, hein, Renée Zellweger qui a gagné un Golden Globes pour ce rôle-là. Et ce ne serait pas étonnant de l'avoir remporté l'Oscar aussi. Parce Clairement. Que c'est vrai que c'est un rôle de femme... complète, impressionnant comme on dit, parce qu'il y a un grand écart par rapport à Renée Zellweger, et là elle joue cette mère de famille. C'est pas spécialement le genre de rôle dans lequel on l'a vu jusqu'ici, et elle joue ça de manière très, très convaincante, et je pense qu'elle a été très bien dirigée, parce que c'est ça l'avantage d'avoir un réalisateur qui a fait du théâtre, c'est que le jeu d'acteur en général est toujours impeccable. Parfois c'est la réalisation qui est un peu moins bonne ou un peu plus classique. Bon, clairement, il n'y a pas de truc. On n'est pas dans 1917 ici, hein, donc...
Non,
y a... Vous n'êtes pas devant un film à artifice, mais au contraire, il utilise sa caméra pour vraiment essayer de poser ses personnages et jouer bien les émotions quand il faut les jouer. Quoi.
Je trouve qu'il y a un côté plus... Alors, ce n'est pas du théâtre filmé du tout, très loin de là, mais il y a un côté un peu théâtral. Tu sens le côté très décor, construit, et je ne dis pas ça parce que tu n'as pas l'impression que c'est du carton-pâte, tu vois. Mais je trouve que tu as vraiment une impression d'utilisation de... Il a l'impression de faire chaque espace une scène où les acteurs peuvent s'amuser et où justement tu n'as pas trop d'artifices de mise en scène, parce que voilà, c'est ça le théâtre avant tout. C'est les comédiens et c'est un peu moins le reste. Et je trouve que c'est quelque chose de très réussi dans le film, en fait, ça.
C'est pour ça que je parlais tantôt des différents décors qui reviennent tout le temps dans le film. Ouais. La chambre d'hôtel, par exemple, c'est vraiment typique. Tu te dis, c'est d'office un studio, ce truc. Mais du coup, ils ont tellement pu s'approprier cette chambre d'hôtel pour faire des trucs et essayer des choses, un peu comme au théâtre. Et donc, c'est vrai qu'on se sent vivre dans ces espaces-là parce que les acteurs, justement, ils vivent et touchent à tout, se baladent. Et donc, il y a du réel, quoi.
Ouais.
Et
la salle de spectacle aussi, quand même.
La salle de spectacle,
qui a un rôle primordial dans le film.
Même ses loges aussi. Hein,
bien sûr.
Souvent, son... oui.
Ouais. Mais Renée Zellweger n'est pas la seule actrice du film.
Non.
Quand même. Et je pense qu'il y en a quelques-uns qui font forte impression aussi. Michael Gambon, évidemment, en espèce de manager financier, etc., de spectacle, qui est assez génial.
Oui.
Mais pour moi, la révélation, la vraie révélation du film, parce que Renée Zellweger n'en est pas une, évidemment,
non.
C'est Jesse Buckley. Qui joue l'assistante de Judy Garland quand elle est en Angleterre. C'est une jeune comédienne irlandaise qu'on a pu voir notamment dans le film Beast l'an dernier, ou il y a 2 ans, je ne sais plus exactement. Absolument génial. On la verra bientôt dans le film Doolittle aussi. Enfin voilà, c'est un nom à noter et à surveiller. Et si jamais elle joue aussi dans la série Fargo.
C'est tout à fait le genre d'actrice qui... Dès que tu vois son visage, tu as envie d'être de son côté ou en tout cas de l'apprécier. Enfin, tu vois, tu dis, ah, elle a l'air gentille, celle-là. Ou tu vois, enfin, directement, et d'ailleurs, c'est son rôle, elle joue la fille qui essaie de bien faire les choses.
C'est un personnage compliqué parce que c'est un rôle un peu tampon entre l'actrice et puis tous ceux qui ont des exigences envers elle. Évidemment, le patron de la tournée, le gars qui finance, le patron du théâtre, etc. Ils ont tous des attentes assez hautes par rapport à Judy Garland. Et voilà, c'est ce personnage qui doit vraiment un peu canaliser tout ça.
L'attaché de presse, pratiquement, qui doit tout le temps
le
suivre.
Tampon,
ouais, c'est ça. L'agent, quoi.
Donc, ouais, vraiment très bien, cette jeune Jessie Buckley, que j'ai hâte de revoir prochainement au cinéma.
Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour du film, parce que voilà, c'est pas un film à grande surprise, c'est un biopic musical, presque.
Oui,
bien sûr. Qui retrace la fin de carrière de Judy Garland, en parlant, bien sûr, de ce qu'elle a vécu quand elle était jeune. Il y a des parallèles, comme tu disais, où on fait des flashbacks très sympathiques, parce qu'on est dans le décor du Magicien d'Oz, ou des choses comme ça. On joue beaucoup avec les décors, de nouveau, le côté peut-être théâtral. Ou bien quand elle plonge dans la piscine, et quand d'un coup on voit que c'est une piscine de cinéma. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont très sympathiques, des petites références visuelles. Mais voilà, c'est un film qui pour moi est très bon. C'est presque un Oscar bait, hein. Tu sais, les films, on se dit, on va tester un truc avec ça. Mais c'est clairement René Zellweger qui tire son épingle du jeu et qui risque d'être celle dont on se souvient le plus en parlant de ce film-là.
Bien sûr.
Pas du film en particulier, mais de elle et de sa prestation.
On parlera des nominations aux Oscars après, mais ouais, moi je pense qu'elle est...
Ben,
elle a peut-être longueur d'avance.
On va en parler tout de suite, on va juste donner la cote d'abord. Combien d'étoiles pour Judy ?
2.
Oui, je pense aussi que c'est une bonne cote pour le film. Alors, vous allez dire, mais vous avez dit pourtant que c'était bien.
Ben oui, mais... c'est bien. Mais oui, alors à nouveau, c'est vrai qu'on l'a déjà... Enfin, je l'ai expliqué sur YouTube. On parle d'étoiles, c'est pas une cote, c'est purement indicatif. Cette
2 étoiles ne veut pas dire 4 sur 10, voilà.
Voilà, c'est ça, c'est exactement
ça. C'est ça.
2 étoiles ne veut pas dire 4 sur 10. Parce que 5 étoiles, c'est chef-d'œuvre absolu, c'est une note qu'on ne donne, j'allais dire jamais. Je l'ai donné
la semaine passée.
Je l'ai donné la semaine passée, mais je pense que c'est la seule fois que je l'ai fait.
Ça, il faudrait, je vais voir le film cette semaine pour pouvoir justement soit te contredire, soit affirmer ce que tu as dit. Parce que parfois, tu t'emballes.
1917, ouais. Mais...
Quand c'est Spielberg. En général, t'as un petit 5 étoiles qui arrive aussi.
Mais oui, parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est un génie.
C'est vrai. On l'apprécie pas assez, Spielberg. Et puis le jour où il partira, tout le monde sera là. Je suis Steven.
Exactement.
Voilà. Bon, terminons cette page Judy. Et enchaînons. On en a un petit peu parlé des Oscars, puisque les nominations sont tombées ce lundi. Et on va pouvoir faire un peu nos pronostics, hein? Qui va gagner, combien d'argent on met sur la table, Thibaut?
Allez, c'est parti.
C'est parti, on commence un peu plus en bas, on va pas commencer tout en haut, mais bon, on va peut-être faire les...
Mais tout en bas ou pas? Et il faut
tout
faut
en
savoir.
Bas.
Allez,
on y va, tout en bas, bon.
Scénario original.
Oui, scénario original, il y a Knives Out, Marriage Story, 1917, Parasite ou Once Upon a Time in Hollywood.
Je pense que Tarantino va faire le doublé Golden Globe Oscar.
Je pense aussi, même si... le scénario de Marriage Story est quand même assez bêta, notamment au niveau des dialogues, mais bon, c'est Tarantino. Maintenant,
scénario adapté,
Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women ou The Two Popes.
Mais je pense que ce sera Little Women.
C'est bizarre que Joker soit un scénario adapté. C'est adapté d'une BD, mais bon,
c'est comme ça. Mais oui, moi,
tu penses que ça va être?
Je mise Little Women.
Little Women, ok, bon, d'accord. J'aurais dit Irishman, mais c'est pas grave.
Mais tu peux dire Irishman.
Mais
retenons
le choix cinécaste, parce qu'il faut bien retenir. Donc Once Upon a Time in Hollywood, c'est pour le premier, et puis Little Women pour le deuxième. Ok, très bien. Effets spéciaux, nous avons Avengers Endgame, Irishman, Lion King, 1917 et Star Wars Rise of Skywalker. Ouh ! Nommé aux Oscars.
Écoute, très honnêtement, je pense que. Enfin, de toute façon, Disney a 3 chances sur 5. Je pense que ce sera pour Avengers. Mais bon.
On sait jamais, hein, Irishman.
J'ai pas envie Lion King. Je pense qu'Irishman, certains, le de-aging, ça a pas convaincu tout le monde. 1917 serait un peu. Enfin, ils sont très peu visibles, donc c'est une marque de qualité.
Ouais.
Mais non, je pense que ça va se jouer entre Avengers et Star Wars, et je penche plutôt pour Avengers.
Très bien.
C'est pas spécialement celui à qui je
Peut-être
le
donnerais. Peut-être un petit Lion King, parce que les effets visuels.
Ouais, mais non. Non.
Non. Okay. Non. Sound mixing, donc le...
Oui, ça on peut passer.
On peut passer, hein.
Là, je...
Sound editing, on peut passer aussi ? Ou pas ?
A priori, oui, mais alors je vois un Ford versus Ferrari, je serais pas surpris pour
c'est
ce genre
que,
de prix.
C'est vrai que c'était pas mal du tout. Par contre, court métrage.
Oui, on va s'y attarder. Court métrage. Oui.
Cocorico.
Ben oui, parce que Belgium, one point.
Exactement. Delphine Girard pour une sœur.
Avec Viola Buttons. Face à Brotherhood, NAFTA Football Club, The Neighbors, Window et Saria. Quatre films que je n'ai évidemment pas vus. Enfin, cela dit, je n'ai pas vu une sœur. Delphine Girard, j'aimerais bien le rattraper. Parce que c'est vrai que maintenant que je suis dans le monde des courts-métrages... voilà, je pense que je me dois de le voir.
Clairement.
Et je ne pensais pas que j'allais le faire, mais... ah oui, alors du coup, je ne peux pas dire quel est mon pronostic pour celui-là.
Non, c'est compliqué.
Et...
mais attends, on est belge, on va dire c'est une sœur. Voilà.
Oui, on va dire une sœur. Et je vais enchaîner sur les courts-métrages d'animation, parce que pour le coup, j'en ai vu un aussi. Donc, il y a 5 nommés Daughter, Hair Love, Kid Bull, Sister et un film français fabuleux, mémorable. Écoute... j'en ai pleuré toutes les larmes de mon corps devant ce film.
Ah bah voilà, ok.
Et il n'est pas impossible que je le sélectionne.
Bah écoute,
au bif. En tout cas, il sera Anima.
Pronostic, on le met dessus aussi.
Ah ouais, ah, carrément, comme, voilà. Carrément. Ça carrément. Va faire pleurer les chaumières ce film, tellement c'est beau.
Production design, ça va peut-être pas le faire quand même.
Si.
Ok, production design, Irishman, Jojo Rabbit, 1917, Once Upon a Time ou Parasite.
Je vais dire 1917.
Oui, je pense aussi. Là, la production,
mais je pense
qu'il y a Irishman... là aussi,
il
y a du boulot, ouais, c'est ça.
Ouais.
Meilleure chanson originale, I Can Let You Throw Yourself Away, de Toy Story. Écoute,
dis les titres des films, tout simplement.
Oui, Toy Story, ouais. Rocketman, Breakthrough, Stand Up et... non, mais ça, c'est les musiques, je suis con.
Ariette,
oui, c'est ça. Et,
La Reine des Neiges
2. Et La Reine des Neiges 2.
Bah, Rocketman, non?
Oui, ouais. Comme ça, Elton va monter sur scène.
Oui.
Voilà. Meilleure musique de film, Joker, Little Woman, Marriage Story, 1917 ou Star Wars, The Rise of Skywalker. Putain, il faut pas abuser quand même.
Je vais rester sur Joker. Oui. Et alors, tu dis pas du mal de John Williams déjà?
Non, mais bon, t'as vu, ils ont quand même déjà 4-5 nominations.
C'est son record de nominations, je pense, John Williams. Là, ouais. Je sais pas combien, mais.
D'accord. Joker, du coup, oui, ça je pense aussi.
Ouais, même si, tu sais bien, mon numéro 2, là, c'est 1917 quand même. Mais ouais, Joker.
Maquillage et tout, on peut peut-être zapper.
On peut zapper maquillage, si tu veux, allez.
International Feature Film, film international. Corpus. Oui,
donc il s'appelle plus. Ça a changé de nom, hein, parce qu'avant c'était meilleur film en langue étrangère. Maintenant oui. C'est meilleur film international. Donc ça veut dire que les Anglais et les Nigériens peuvent participer aussi.
Ah ouais, merde.
Les Nigériens.
C'est chaud, ça, du coup.
Maintenant, oui. Avant, ils pouvaient pas.
Mais en toute logique, Judy, alors c'est un film anglais.
Technique, je suppose. Mais bon, alors les Oscars, ça n'a jamais été très clair.
Hein. Oui,
il suffit qu'un bon distributeur américain, un peu de lobby et que tu sois...
Là, on dirait quand même que c'est toujours langue étrangère. Tu sais. Donc, Corpus Christi, Honeyland, Les Misérables.
Ding, ding, ding. Salut, français. Je pense que j'ai dit que je pensais qu'il ne serait pas dans les 5. Il y est, c'est très bien.
Douleur et gloire et Parasite.
Ouais. Alors, Parasite se retrouve, on va en reparler après, mais il est nommé ailleurs. Enfin, on va le dire, il est aussi dans les meilleurs films. C'est comme Roma l'an dernier. Roma était nommé dans les deux. Il a gagné meilleur film étranger, mais il n'a pas eu l'Oscar du meilleur film. Pourquoi ? C'est interdit en fait. Tu ne peux pas faire le doublé meilleur film étranger et meilleur film.
Il va donc, pas gagner meilleur film.
Je pense que Parasite va gagner meilleur film étranger et n'aura pas meilleur film. On reparlera de qui aura meilleur film après.
Meilleur montage, film editing, Ford versus Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker ou Parasite.
Parasite ou Irishman, parce que bon, Thelma Schoonmaker, c'est quand même une génie.
Ok. Documentaire, bon, non. Documentaire, non. Voilà. Réalisation, bon. Irishman, Martin Scorsese, Joker, Todd Phillips, 1917, Sam Mendes, Once Upon a Time in Hollywood, Quentin Tarantino et Parasite, Bong Joon-ho.
Bong Joon-ho.
Waouh.
Ah ouais, ouais, là.
Devant Martin Scorsese, ok. Todd Phillips, ça c'est non, ça c'est sûr. Si on peut déjà en éliminer un, c'est Todd Phillips.
S'il y en a un qui est éliminé, c'est Todd Phillips.
Sam Mendes quand même. C'est balèze, hein.
C'est balèze.
Ouf.
C'est chaud. comme aux Golden Globes, petit scandale parce que pas de réalisatrice, machin.
Ouais.
À part Greta Gerwig, et encore après avoir vu le film, je comprends qu'elle soit pas nommée face à ces 5-là. Et peut-être la réalisatrice de Farewell. Je ne vois pas trop qui d'autre aurait pu prétendre à être dans cette liste. Mais honnêtement, très franchement, je ne suis pas choqué par les 5 nommés. Voilà, il faut le dire aussi.
Non, c'est clair. Mais du coup, c'est qui qu'on avait dit?
Moi, je dirais... Alors,
Parasite?
Non. Ouais, je veux dire Bong Joon-ho.
Bah, Dido, waouh, c'est pas mal ça.
Honnêtement, j'y crois pas. Mais voilà. Soyons fous.
Photo, hein? Quand même.
Ah, bah oui.
Irishman, Joker, The Lighthouse, qui est là, qui sort de nulle part, comme ça. Ouais, il arrive.
Je suis content.
1917 et Once Upon a Time in Hollywood.
Bah, Roger Dickens, hein, 1917. Oui. Là, je vois
là,
pas.
Là, je pense que là, il n'y a pas de choix.
Ouais, même si, franchement, Robert Richardson, il a fait un excellent boulot pour Once Upon a Time. Rodrigo Prieto, tout ce qu'il fait, c'est de l'or. Donc voilà.
Je peux pas tester.
Et Lighthouse, la photo est très belle aussi. Mais grosse longueur d'avance pour Roger Dickens et 1917.
Oui, je pense aussi. Meilleur film d'animation, on a Dragon 3. J'ai perdu mon corps. Attention, Cocorico nouveau.
Et ouais, encore la France.
Klaus, The Missing Link et Toy Story 4.
Je pense. Alors, s'ils ont des couilles, ils leur mettent à J'ai perdu mon corps.
Oui, ce sera le plus original. Oui.
Mais je sens bien la petite surprise Netflix Klaus, on ne sait jamais.
What? Missing Link? Comme au Golden Globes?
Ils ont eu Golden Globes, mais non, je ne suis pas sûr.
Alors, ok. Bon, bah, donnons-le à I Lost My Body. Hein. J'ai perdu mon corps, on va
sur celui-là. Soyons fous.
Meilleure actrice dans un second rôle, Kathy Bates, Laura Dern.
Kathy Bates pour Richard Jewell.
Laura Dern pour Marriage Story. Scarlett Johansson pour Jojo Rabbit. Florence...
Pugh. J'ai vu une interview où quelqu'un disait Pugh, donc je dis Pugh maintenant.
Bah oui, c'est Florence Pugh.
Pugh.
C'est à vous, c'est ça?
C'était Timothée Chalamet qui disait ça.
T'as regardé C'est à vous?
Je sais plus, non.
Et elle était avec Timothée Chalamet, C'est à vous.
Soit.
Little Woman et Margot Robbie pour Bombshell.
Alors j'ai vu les 5 films. Et Dieu sait que j'aime cette actrice, je pense que je vais quand même miser sur elle. Florence Pugh dans Little Women.
Tu dis ça parce qu'elle ressemble un peu à Edienne Panthier, hein? Ah,
ouh,
t'as reconnu le lien. Oui, parce qu'il faut savoir que tu... Ok, parenthèse 2 secondes. Attention. On va expliquer quand même. Thibaut a une carte de banque.
Qu'est-ce que tu... Ah, c'est fini, hein. C'est fini.
Ah, c'est fini. Ouais, tu as eu, en tout cas pendant de longues années...
Très longues années.
Une carte de banque. Ouais. Tu l'as toujours sur toi?
Non, je l'ai plus.
Une carte de banque d'une banque belge, assez connue, sur laquelle tu as pu customiser, mettre la photo de ton choix.
Ouais. Hein.
Et tu, à l'époque, Heroes était sans doute dans ton cœur.
Ah bah bien sûr.
Et tu as mis... Eden Panthère, la jolie blonde qui joue la cheerleader, et Masioka, oui quand même.
Le japonais qui fait «
Yatta !» Exactement, sur ta carte de banque pendant je ne sais pas combien d'années.
Ah bah écoute, 10 ans plus, 15 ans, je sais pas.
Et maintenant tu aimes bien Florence Puff. Je vois qu'il y a quand même une similitude entre les deux
j'avais
physiques.
J'avais jamais vraiment pensé à cette similitude entre Florence et Eden Panthère, mais maintenant que tu le dis, effectivement.
Ouais, c'est terrible.
Bon. Ça dit, pour en revenir à nos moutons, si c'est pas Florence, j'espère Laura Dern dans Marriage Story, parce qu'elle est géniale.
Elle est terrible.
Mais très honnêtement, les 5 sont très bien.
Mais on n'a pas encore eu Bombshell, non?
Je l'ai vu.
Tu l'as vu?
Oui, oui.
Donc pas de Margot Robbie.
Elle est très bien, mais non.
Alors, meilleur acteur dans un second rôle, Tom Hanks pour A Beautiful Day in the Neighborhood. Oui, bah quoi?
Oui.
Anthony Hopkins pour Les Deux Papes, Al Pacino pour The Irishman, Joe Pesci pour The Irishman et Brad Pitt pour Once Upon a Time in Hollywood. Alors là, Tom Hanks en supporting role, ça c'est quand même chaud,
non,
ça.
Non, mais moi je mise Brad Pitt ou Joe Pesci. Et je pense que ce sera Brad Pitt.
Je pense aussi. Parce que c'est Brad, quoi. Actrice dans un rôle principal, Cynthia Erivo pour Harriet, Scarlett Johansson pour Marriage Story. Je sais jamais le faire. Saoirse Ronan, il faut pas que j'en rencontre un jour parce que ça va pas le faire. pour Little Woman, Charlize Theron pour Bombshell et Renée Zellweger pour Judy.
Je vais rester sur Renée Zellweger
pour Judy. Oui, tout à fait. Alors, acteur dans un rôle principal, Antonio Banderas pour Douleur et Gloire, Leonardo DiCaprio pour Once Upon a Time, Adam Driver pour Marriage Story, Joaquin Phoenix pour Joker ou Jonathan Pryce pour Les Deux Papes.
Je reste sur Adam Driver aussi.
Quoi? Non, je prends Joaquin Phoenix.
Ah ouais?
Ouais.
Ok.
C'est son année. Il va pouvoir monter avec ses converses sur scène. Si.
Mais je pense que ce sera Joaquin Phoenix, mais je reste sur Adam Driver.
Écoute, j'ai Joaquin. Et puis le meilleur film, ils en ont mis.
9. On va savoir pourquoi 9 et pas 10.
C'était 10 d'habitude.
Bah, je sais pas. Okay. Bah, avant c'était 5, et puis 10, et puis 9.
C'est ça quoi. Ford vs Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Woman, Marriage Story, 1917, Once Upon a Time et Parasite.
Mais je pense que Sam Mendes va faire le doublé Golden Globes Oscar.
Tu crois?
Ouais.
la compète quand même. T'as vu la compète de classe. Chaud, hein. Je crois pas que tous les ans on va avoir une compète pareille quand même. C'est très chaud. Alors ceux qui vont perdre tout de suite, Jojo Rabbit.
Parce que franchement, l'année dernière c'était un peu. Ouais. Et là, il y a du lourd quand même.
Oui, en effet.
Oui, alors je pense que Ford versus Ferrari, Jojo Rabbit et Little Women, malheureusement, n'ont pas de réelle chance. Joker non plus d'ailleurs.
Parasite non plus parce qu'il va gagner le meilleur prix international.
Parasite non plus parce que je pense effectivement qu'il aura le meilleur film étranger.
Joker n'a pas de chance. Pour
reste
ça.
Donc non, je pense que Joker n'a pas de chance. Non, c'est... Donc reste donc Irishman, Marriage Story 1917 et Once Upon a Time. Je pense que Marriage Story n'a pas de chance non plus en fait.
Non.
Donc c'est Irishman,
Once 1917, Upon a Time sera déjà récompensé par le scénario et Brad Pitt.
Oui, enfin, c'est pas tout le monde ne vote pas pour tout aux Oscars. Hein.
Oui, mais tu sais,
c'est les chefs-op votent pour les chefs-op, etc.
Oui, c'est le Directors Guild qui voilà. vote pour les. Oui.
Donc non, moi je pense que 1917 ou grosse surprise Once Upon a Time.
Waouh, l'Oscar de.
Mais je pense que ce sera 1917.
Écoutez, bon ben voilà, c'est notre pronostic des Oscars. On a la cérémonie le 9 février, on en parlera après.
Dans 3 semaines, je vais réécouter cette émission, je vais faire waouh, j'ai dit ça moi.
Bah c'est le but, hein. Après forcément on fera le palmarès et on pourra revenir sur ce qu'on a dit. Donc gardez bien tous nos pronostics avec vous. Et s'il vous plaît, si vous écoutez maintenant cet extrait sur YouTube, n'hésitez pas à mettre dans vos commentaires vos différents pronostics, notamment pour le meilleur film.
Oui, hein, bien sûr.
Voilà, n'hésitez pas. Enchaînons tout de suite avec le deuxième film de la semaine qui s'appelle Les Siffleurs. C'est un film roumain, enfin, franco-roumain, allemand, un peu européen, on va dire ça comme ça. C'est presque un film Arte.
Oui,
c'est ça. De quoi ça parle, les siffleurs? Ça parle de Christy, un inspecteur de police de Bucarest, qui est corrompu par des trafiquants de drogue et qui est soupçonné par ses supérieurs et mis sur écoute. Le mec est mis sur écoute directement et embarqué malgré lui par la sulfureuse Gilda sur l'île de la Gomera.
Qui est dans les îles Canaries, hein,
exactement.
Pour ceux qui ne connaissent pas.
Il doit apprendre vite le silbo, un langage sifflé ancestral. Attention, ce film est en train de partir dans une direction un peu... Waouh. Inattendu.
Pas un langage, une langue.
Une langue sifflée, c'est chaud quand même. Ouais. Grâce à ce langage secret, il pourra libérer en Roumanie un mafieux de prison et récupérer des millions qui sont cachés. Mais l'amour va s'en mêler forcément et tout ne se passera pas comme prévu, sinon il n'y aura pas de film. C'est un film, je pense, qui est auréolé d'une petite tu vois, Cannes. Je sais pas, il était à Cannes dans une sélection particulière, non?
En compétition.
Compétition, carrément, rien que ça. Le titre original du film, c'est?
C'est La Gomera.
C'est pour ça que.
Ouais.
Au début, ça me disait rien, j'ai les siffleurs. Ah oui, La Gomera, oui, en effet, oui, c'était au Festival de Cannes. Les siffleurs, c'est un film que tu as eu l'occasion de voir.
À Cannes.
Film thriller, avec forcément un peu d'amour, mais c'est juste ça ou il y a un petit ton un peu caché dans ce film-là? C'est pas qu'un thriller, c'est aussi. On a l'impression en lisant le scénario qu'il peut y avoir un peu des écarts.
Non, c'est globalement. Un thriller avec effectivement un peu d'histoire d'amour, mais non, on est dans le thriller pur.
Plus juste, c'est pas un truc comédique où à un moment donné, on commence à siffler pour essayer de faire comprendre.
Non, c'était pas une comédie.
Ok, d'accord, très bien.
Non, c'est un vrai thriller.
D'accord, très bien.
Film que j'ai quitté donc à Cannes, effectivement, en compétition, qui nous avait fait passer une plutôt bonne soirée, on va pas se mentir, qui est assez complexe parce que t'as pas mal de flashbacks de tu vois dans la temporalité au début c'est un peu chaud à suivre parce qu'il se passe plein de choses et puis au début tu vois pas trop comment tout va s'imbriquer l'un dans l'autre parce que tu suis un personnage et puis tu suis d'autres choses et parfois t'es pas forcément à la même époque etc donc ou en tout cas au même moment donc ouais c'est ça c'est un peu thriller puzzle où tu dis ok d'accord lui c'est lui il a fait ça ok, là, ça, je vois pas le lien pour l'instant. Ouais. Et puis, ok, je vois.
Le genre de film où il faut pas que les personnages parlent trop vite, quoi.
C'est ça.
Sinon.
Ou qu'ils sifflent trop vite. Oui. Oui. Petite blague de la soirée.
Petite blague du nouvel an.
Parce que, oui, effectivement, ces malfrats, ces gangsters vont communiquer en sifflant. C'est hyper
très
intéressant.
Énervant, au bout de 10 minutes.
Non. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est notamment cette scène. Il y en a plusieurs, hein, mais il y a au moins une scène où un personnage apprend à l'autre à siffler, enfin, apprend la langue exacte et précise. Parce que si tu fais ou si tu fais pas bien le, ça veut pas dire la même chose, tu vois?
Oh putain, ils sont balèzes hein, chez les mafieux.
Et c'est pas juste des... C'est genre...
Ah oui, d'accord. Ouais,
c'est vraiment... Je siffle dans un micro, c'est pas l'idéal.
Oui, non, pas de...
hein, mais
et puis c'est pas l'idéal tout court, en fait.
Mais t'as vraiment des variations dans l'intonation, dans le... Tu sais, si t'as une montée des trucs...
Donc ils ont dû s'entraîner à siffler,
c'est,
quoi.
C'est très, très précis, tu vois.
De faire un stage de 6 mois de sifflement intensif. Ouais,
parce que si tu mets pas l'intonation...
C'est ça. C'est chaud.
L'accent tonique, là où il faut... et ben au lieu de dire viens me chercher à 4h à la sortie de la prison, c'est je ne sais pas.
Okay.
Bref, j'exagère un peu, mais voilà, c'est ça. Donc globalement, en fait, c'est un. On est dans un pur thriller où ces inspecteurs. Enfin, cet inspecteur est soupçonné par ses supérieurs d'être impliqué dans ce trafic de drogue. Mm-hmm. Et du coup, il va devoir voir l'autre côté, en fait, du truc. Plus le côté police, mais le côté malfrat, pour essayer de se sortir de cette affaire, parce qu'il va devoir faire des choses, faire sortir quelqu'un de prison, notamment pour récupérer de l'argent, enfin bref. Franchement, c'est assez complexe.
Les entourloupes.
Ouais.
Mais t'arrives à suivre quand même, parce que tu dis que c'est assez complexe depuis le début de la critique.
Ouais, ça me fait peur, moi. C'est parce qu'il faut être attentif, quoi, okay. À ce qui se passe. Parce qu'effectivement, il y a pas mal de choses qui s'imbriquent, qui, au début, voilà, comme je le disais, tu vois pas forcément les liens entre chaque chose, chaque élément. Mais non, tout s'éclaircit au fur et à mesure que le film avance. C'est le but, c'est le principe des films de ce genre, hein, donc c'est pas surprenant. Mais voilà, c'est un film devant lequel il faut être assez attentif pour bien suivre et comprendre chaque tenant et aboutissant. Donc voilà. Et puis en plus, donc ça se passe en Roumanie, culture peut-être un peu moins connue, cinéma dont on voit pas énormément les films chez nous, à part Christian Pouillou et Christian Mungiu, globalement, pour faire simple. Donc voilà, je pense que certains des précédents films de Corneliu Porumbiu, donc le réalisateur de ce film-ci, étaient sortis chez nous. Je pense que un des plus connus, c'était sans doute de 12h08 à l'est de Bucarest. Pour le reste, je peux plus trop te redire comme ça toute sa filmo, mais voilà. C'est pas un inconnu non plus, mais globalement, c'est quelqu'un dont les films ne sortent pas ou très peu chez nous, et donc voilà, pas connu. Je te parle évidemment pas du casting, parce que voilà, ce ne sont que des acteurs roumains que je vais pas faussement prétendre
que t'as vu toute la filmo
du cinéma roumain, à part les rares réalisateurs que je t'ai cité précédemment. Mais voilà, comme je le disais en entrée en début de critique, c'est un film qui nous a fait passer un assez bon moment sur la croisette, qui a pas plus marqué que ça, parce que c'est un film très bien, très correct.
Oui, c'est ça.
Mais pas plus que ça, pas dans le sens où t'es en compétition à Cannes, quoi. Donc le niveau est en général plutôt balèze. Et même s'il ne dénotait pas non plus par rapport au reste, voilà, c'est un film qui a peut-être satisfait un peu tout le monde, mais qui n'a pas eu soit des gens qui l'ont détesté ou
c'est un peu la
qui l'ont adoré frais, et qui ont fait sa carrière. Et voilà.
C'est un peu le film tampon. Il y en a toujours un ou deux à Cannes pour un peu alléger la pression, parce que tous les jours, on se tape des films. Enfin, vous tapez des films quand même...
On se tape beaucoup de films par jour.
Qui sont parfois lourds, c'est pas des films spécialement très accessibles. Et donc, quand on a un film comme ça un peu plus léger, ou c'est une histoire plus facile.
On peut dire ça comme ça, en quelque sorte. Voilà, ouais. C'est un film un peu plus facile, un peu plus. Enfin, facile. Oui, un peu complexe, parce qu'il faut suivre l'histoire, mais voilà, globalement, assez facile et plus léger, moins de gros enjeux et de gros sujets ça. De société, etc., etc.
Et niveau mafia, on est un truc genre Il Traditor, ou ça va vraiment à fond dans la mafia, ou on se concentre vraiment sur ce personnage-là et sa relation amoureuse?
Non, il y a pas mal d'autres personnes dans la mafia qui sont impliquées, donc voilà, c'est pour ça que je disais notamment qu'il fallait quand même plutôt bien suivre, parce que si tu comprends pas qui est qui... il y a un moment où tu peux perdre le fil.
Il décroche. Voilà. Okay. Donc il faut être au courant. Si vous allez voir Les Siffleurs, soyez bien attentifs. Le film ne dure pas très longtemps, une heure et demie. Donc il y a moyen de suivre en une heure et demie. C'est pas 3h30, quoi.
Non.
N'est-ce pas, Martine?
Bien sûr. C'est plutôt facile.
Qu'est-ce que tu lui donnes comme code, du coup, aux Siffleurs?
Un bon 2 étoiles aussi.
2 étoiles aussi. Voilà. On se mène des 2 étoiles, tranquillement, mais sûrement. On avance. Et on va parler maintenant des nominations au Magritte. Oui. Qui sont tombés aussi décidément. Oscar, Magritte, on enchaîne, hein, c'est pas possible. Et on fait pareil, on fait les pronostics. Pourquoi ? Parce qu'on sera là au Magritte, hein, on sera à la cérémonie. On ne sait pas encore très bien sous quelle forme. D'ailleurs, si vous avez une suggestion, n'hésitez pas à le dire. Hein, si vous voulez qu'on fasse un podcast, si vous voulez qu'on fasse des vidéos, enfin, on est disponible. Et en tout cas, on sera là-bas pour vous parler cinéma et en parler de façon dans Cinécast après. Commençons les nominations par la première catégorie. Meilleur documentaire. Il y a 4 films, Bain public, By the Name of Tanya, Mon nom est Clitoris et Sans frapper.
Je mise sur By the Name of Tanya.
Moi, je mise sur Mon nom est Clitoris.
Je savais que t'allais dire ça.
Parce que j'aime bien le nom. Meilleur court-métrage d'animation, Grand loup et petit loup, La foire agricole, Nuit chérie et Sous le quartillage des côtes.
J'aimerais que ce soit Sous le quartillage des côtes, mais je pense que ce sera La foire agricole. Voilà.
Très bien. Film réalisé par Stéphane Aubier et Vincent Patard.
Bah oui, pour La foire agricole, oui. Bah oui. Oui, c'est Indien et Cowboy.
Bah oui, mais il faut le rappeler. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours. Parce que je vois que c'est la boîte de prod Panique, et donc Panique.
Voilà.
Agricole, Panique, je me suis dit, ah, il y a un rapport.
Oui, non, mais tu fais bien de le signaler, voilà. Effectivement, oui, avec Panique au village et Indien, Cowboy, toute la clique.
Meilleur court-métrage de fiction, Bruxelles-Beyrouth, Détour, Lucia et Matrio, c'est compliqué.
Lucia en el Limbo, déjà faut dire le
titre
en entier.
Ah, j'avais pas vu la suite. En el Limbo et Matrioshka.
Voilà. Les poupées, quoi. Écoute, je ne me prononcerai pas pour des raisons éthiques. Parce que j'ai présélectionné ces films quand même.
Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai. Tu peux pas. Voilà. Meilleur montage, Duel, Le jeune Ahmed ou Lola vers la mer.
En meilleur montage, Le jeune Ahmed.
Ok. Meilleure musique originale, Binti, Caval, Duel ou Lola vers la mer.
Alors, tu n'as pas dit que Binti, c'était le motel qui a fait.
Non. Mais maintenant, c'est toi qui précise. Maintenant, c'est toi qui précise. De Romeo Elvis. Tout à fait.
Je miserais sur Raph Koenen pour Lola vers la mer. Excellent compositeur belge.
Très bien. Peut-être que ce sera une surprise le motel, on ne sait jamais. Meilleur costume de Patrick, Emma Peters et Seul à mon mariage.
Alors, petite précision, parce qu'on est en plein surréalisme belge. Meilleur costume pour de Patrick, c'est quand même un film qui se passe dans un camping nudiste. Hein.
Bah, tu sais.
Il y a quelques costumes, effectivement. Quand même, mais
les gens qui sont habillés sont très bien habillés.
Relativement peu. Hein.
Oui.
Non, mais je pense que ce serait. Non, je trouve que. J'ai pas envie d'être méchant, mais je trouve que les nominations pour ce Magritte sont un peu pourraves. Hein.
On va en parler après. Il y aura 2-3 exemples assez clients.
Honnêtement, il n'y a rien de particulièrement waouh. Je comprends pas que Duel soit pas nommé pour ça, par exemple. Tu vois. ça aurait été l'évidence, mais bon.
Comme dirait quelqu'un, elles sont complètement pétées, ces nominations.
Ouais, là, c'est un peu pété. Ouais.
Donc,
eh bien, écoute.
De Patrick.
Allons-y. Oui, de Patrick pour le surréalisme. Allez, allons-y. Allons jusqu'au bout du délire.
Meilleur décor de Patrick, de nouveau.
Ils sont bien les décors.
Il y a des choses à voir. Lola vers la mer et The Room.
Je veux dire de Patrick. Franchement, le camping et tout, c'est assez cool. C'est bien foutu.
Je suis content que t'aimes le camping.
Ouais.
Meilleur son, Atlantique, Duel ou Nuestras Madres.
Nuestras Madres.
Meilleure image, Duel, Les Frères Sisters ou Nuestras Madres. Et là, tu te dis, ceux qui nous écoutent se disent, ah, il y a un film que je connais.
Ouais. Bah, Deby.
Oui.
Les Frères Sisters. Enfin, je veux dire, c'est même pas juste un des meilleurs chefs-op belges, c'est un des meilleurs chefs-op au monde. Donc,
il est chez nous. Voilà. Autant profiter.
Ça dit, la photo, si on veut aller un peu dans l'original, le challenge, etc., le changement, je dis Virginie Surdej pour Nuestras Madres, parce qu'effectivement, la photo est très, très belle.
Meilleur espoir masculin pour le film Binti, on a Balogi. Pour Escapada, on a François Necken. Pour Le jeune Ahmed, on a Idir Benhadi. Et pour Trois jours et une vie, on a Jérémy Senez, le fils de Guillaume Senez.
Oui, je veux dire Idir Benhadi pour Le jeune Ahmed.
Oui, ça me paraît assez évident. Meilleur espoir féminin, Binti, c'est donc Bebel Chiani, Balogi. Escapada, Raphaël.
Qui est la fille de Balogi. Balogi qui est quand même plus connu pour sa musique que son métier d'acteur. Soit dit en passant.
Escapada, on a Raphaël Corbizier. Le jeune Ahmed, on a Victoria Bluck. Et Lola vers la mer, Mia Bollars.
Je pense que l'évidence est là.
Mia Bollars, oui. On en a parlé récemment, hein, Lola vers la mer. N'hésitez pas à aller réécouter le podcast, puisque c'est une très bonne surprise du cinéma belge. Meilleur acteur dans un second rôle de Patrick Boulie-Lanners. Duel, Harry Worthalter. Le Grand Bain, Jonathan Zakai. Le jeune Ahmed, Othman Moumen.
Ben, je vais dire le jeune Ahmed, Othman Moumen, qui fait donc le...
L'imam. Hein.
L'imam, oui, qui convertit, qui influence...
C'est ça.
Le jeune Ahmed.
Mais quand même, hein, Jonathan Zakai pour le rôle de Thibaut dans Le Grand Bain, c'est quand même chercher loin, 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 loin.
Ouais, tu vois qu'il faudrait peut-être un peu plus de comédien belge.
Wow,
je trouve top dans le film, hein, c'est pas ça, mais on parle quand même. Meilleur acteur dans un second rôle.
C'est ça, quand t'en mets trois.
C'est là. Ouais, alors il y a qui ? Ouais, non.
Tu as la canapèche.
En vrai, il y a beaucoup plus de personnes dans les. Oui, alors là, on tacle un peu l'académie gentiment, mais vrai,
partie.
En vrai, c'est les personnes qui ont voté au premier tour qui en sont responsables.
Oui, tout à fait.
Parce qu'il y a plus de choix que ça.
Non, c'est vrai que c'est un peu léger.
C'est un peu déconné, quand même.
Meilleure actrice dans le second rôle, on a Yolande Moreau dans Cléo, on a Stéphanie Carriancourt pour Emma Peters, on a Myriam Akédiou pour le jeune Ahmed, et Claire Botson pour le jeune Ahmed. Botson, ça va un peu...
Il faudrait que tu apprennes à prononcer les noms de famille belges un jour. Toi.
Oui, parce que tu sais, on parle de Judy, Botson, etc. Et... Puis Claire Botson et c'est les Oscars ici.
Okay. Myriam Akédiou pour le jeune Ahmed.
Décidément, ça va rafler
plein de prix. La professeure. Hein.
Meilleur acteur, Boulie-Lanners pour C'est ça l'amour. Kevin Janssens pour De Patrick. Mark Zynga pour La miséricorde de la jungle. Et Benoît Poelvoorde pour Le Grand Bain.
Kevin Janssens, De Patrick.
En tout cas, ça fait plaisir de voir Benoît, s'il veut en Magritte. Ouais. En tout cas, ça sent que c'est tu vois, on a mis Benoît Poelvoorde comme ça à la RTBF pour faire 2-3 blagues sur quelqu'un que les gens connaissent à la télé. Quoi, tu vois.
Peut-être.
C'est un peu ça. Hein. Meilleure actrice, on a Veerle Batens pour Duel, Anne Cossens pour Duel, Lubna Azabal pour Tel Aviv on Fire et Cécile de France pour Un monde plus grand.
Bon, Lubna Azabal, je pense qu'elle en a déjà au moins 2, voire 3 de Magritte, là. Donc je pense que ça va se jouer entre Veerle Batens et Anne Cossens pour Duel, voire les deux. Ce serait pas le premier ex-aequo au Magritte. Il y en a eu un il y a quelques années avec Astrid Wetnal et Virginie Efira.
Voilà.
C'était mérité, hein, cela dit.
Meilleur scénario original ou adaptation, pardon, Duel, Le jeune Ahmed, Le laver la mer ou Nuestras Madres.
Nuestras Madres.
Boom. Meilleur film étranger en coproduction, Atlantique de Mati Diop, Les Frères Sisters de Jacques Audiard qui sera là. Hein. Non. Sorry We Miss You de Ken Loach et Tel Aviv on Fire de Sameh Zoabi.
Les Frères Sisters. Mais je pense que ce sera Ken Loach.
Coproduit par les Frères Dardenne. Hein, donc ils ont peut-être cherché
Oui. Les Frères Dardenne coproduisent Audiard, Ken Loach et Christian Mungiu principalement. Voilà.
Tu penses pas que ce sera Ken Loach?
Je pense que c'est lui qui va gagner. Oui, je préférais que ce soit les Frères Sisters, mais je pense que ce sera Ken Loach.
Meilleur film flamand, Bastard.
Bastard.
Binti, Cléo, pardon.
Film passé au bif, hein, Bastard.
Binti, Cléo et De Patrick.
Je n'ai vu que De Patrick. Donc
De Patrick.
Voilà.
Magritte de la meilleure réalisation, Duel pour Olivier Masset-Depasse, Le jeune Ahmed pour Jean-Pierre et Luc Dardenne, Le laver la mer pour Laurent Micheli et Nuestras Madres pour César Diaz. Premier film.
Je vais dire César Diaz.
Oh, c'est beau, ça, t'imagines?
Ouais.
Mériorisation, premier film.
Enfin, je l'ai dit, si c'est les Dardennes, c'est absolument pas choquant. Ils ont quand même eu le prix de la mise en scène à Cannes pour ce film-là.
C'est clair. Meilleur premier film, Cavale de Virginie Gourmel, Escapada de Sarah Hirt, Nuestras Madres, de César Diaz, Pour vivre heureux, décidément, ils sortent nulle part, lui, de Dimitri Lindé et Salima Sarah Glamine, pardon, et Seul à mon mariage de Martha Bergman.
Ben écoute, je vais dire Pour vivre heureux.
Bah oui.
Ah vraiment. Ah ouais, de loin. Enfin, de loin.
C'est quand même Nuestras Madres, quand même.
C'est l'un ou l'autre, mais je préfère garder Nuestras Madres pour la dernière catégorie.
Qui est meilleur film, bien sûr.
Ouais.
Duel, Le jeune Ahmed, Lola vers la mer, Nuestras Madres et Seul à mon mariage.
Ouais, moi je préfère Nuestras Madres comme meilleur film.
Écoute.
Donc comme ça, on laisse la chance à quelqu'un d'autre pour meilleur premier film, tu vois.
On verra ça, hein. On verra ça ensemble au Magritte du cinéma. Ce sera le 1er février. À suivre en direct forcément sur une chaîne de télévision bien connue ou via Cinécast, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur place. Vous allez bien voir ce qu'on va faire, on vous le dira de toute façon en temps voulu, notre programme pour les Magritte. Dernier film de la semaine, c'est Adoration de Fabrice Duwels, hein. C'est un film franco-belge avec Thomas Diora, Fantine Ardouin notamment et Benoît Poelvoorde. Je veux dire, Thomas, c'est quelqu'un qu'on a vu notamment au cinéma il n'y a pas très longtemps.
Oui, dans Jusqu'à la garde.
Dans Jusqu'à la garde, rien que ça.
Fantine et... Ardouin, elle était dans le dernier film de Michael Haneke aussi. Donc déjà, monter les marches à Cannes.
Du beau monde.
À 12 ans, je ne sais pas, 13.
Du coup, comme je disais, du beau monde, un beau casting pour ce film-là.
Tout à fait.
Et ça raconte quoi? Ça raconte un film un peu particulier. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire de Paul, un jeune garçon qui est solitaire, qui rencontre Gloria. Et Gloria, elle est un peu particulière aussi, puisqu'elle est, elle est patiente d'un hôpital psychiatrique. Et donc, Paul la rencontre parce que sa mère travaille là-bas. Et ils vont tomber amoureux, histoire d'amour un peu improbable. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont décider de s'enfuir ensemble. Ça va être la grande échappée pour vivre leur idylle, loin de ce monde d'adultes, hein, ce monde de responsabilités, ce monde de problèmes, ce monde où on ne peut pas être comme on est. Mmh. Il faut le monde des apparences.
Et l'amour rend aveugle, en plus.
Et l'amour rend aveugle. Mais bon, je propose que... On va pas tout dire, on va écouter la bande-annonce.
Je suis pas malade, tu sais. Je sens juste quand les gens me veulent du mal.
Et tu sens quoi pour moi?
T'es la personne la plus gentille que j'ai jamais rencontrée.
Tu crois en Dieu?
Je sais pas.
Tu crois en quoi?
Ouais!
Tu crois en elle?
Tu me quitteras jamais?
Non, jamais.
Alors je t'aimerai toujours.
Thibaut, ce film a tout pour me plaire quand même. Hein. Parce qu'il y a le côté romantique. Moi, j'aime, vous savez, j'aime bien le film romantique. Mais il y a le côté, on va pas se faire attraper par les adultes.
C'est pas coup de foudre de Tingy, là. Non. Je tiens à te le dire.
S'il n'y a pas eu Grant qui fait des petites blagues. Non,
non, Hugh n'est pas là.
Oh merde. Bah, c'est pas grave. On va quand même... apprécié. Pourquoi? Parce que je vois dans la description du film, parce que je ne l'ai pas vu, hein, forcément, que c'est un film thriller, notamment.
Oui.
Et ça m'intéresse fortement, parce qu'on pourrait croire que c'est, tu sais, le film un peu genre en mode un peu rêveur, il s'échappe, il s'aime, Moonrise Kingdom, tu vois, dans ce style-là. Mais non, il y a le côté thriller, thriller dramatique. Explique-moi un peu d'où vient ce côté thriller dans ce film-là, où est-ce qu'il rentre en jeu?
Alors, les deux enfants vont partir, vont quitter l'hôpital psychiatrique. Forcément, les adultes vont le chercher, enfin, vont les chercher. La mère va chercher le jeune garçon, et puis les employés de l'hôpital psychiatrique vont chercher la fille. Et l'oncle de la fille la cherche, parce qu'en fait, elle pense que son oncle l'a mise là afin qu'elle ne puisse pas hériter de l'argent de ses parents, etc. Donc, elle pense que l'oncle veut juste...
Il veut du mal, quoi, en fait.
La foutre là, et lui faire après, enfin, être libre, en quelque sorte.
Tout à fait. Laisse-moi deviner, l'oncle est joué par Paul Wort.
Non, par Laurent Lucas.
D'accord.
Évidemment, c'est lui qui est la vraie liaison, si je puis dire, de cette trilogie ardennaise de Fabrice Duels, parce que, pour rappel, ceci est le troisième volet de cette trilogie ardennaise qui n'est pas une vraie trilogie, il n'y a pas de suite entre chaque film.
C'est un peu comme la trilogie Cornetto de Edgar Wright.
Exactement, c'est exactement ça. Donc, trilogie qui était composée de Calvaire en 2004, et puis Alléluia en 2014, et maintenant Adoration.
6 ans plus tard, boum, quand même.
Et oui. Donc oui, Laurent Lucas est présent, c'était l'acteur principal des deux autres films, Calvaire et Alléluia, et maintenant il a un petit rôle. Des petites apparitions.
C'est lui le Cornetto.
Dans le troisième film. Mais... ouais, c'est Laurent Lucas le Cornetto de cette trilogie, effectivement.
Bah écoute.
Et donc voilà, les deux enfants ont des poursuivants. Et donc le côté thriller vient un peu de là, okay. Mais pas que, parce que la question est de savoir si la jeune demoiselle est vraiment folle ou
oui,
non.
Oui, c'est ça. Est-ce qu'ils sont amoureux? Est-ce qu'il y a vraiment une idylle? Ou est-ce que c'est un peu de la folie et qu'ils vont trop loin? C'est un peu ça la question qu'on se pose, je suppose.
Ben, c'est ça. En fait, Paul, il est fou amoureux d'elle. Donc,
prêt à tout.
Elle dit un truc, elle claque des doigts, il obéit. Il n'a pas vraiment grand-chose à dire parce qu'elle a une très très forte personnalité. Et donc lui, il s'efface.
Oui.
Et comme il est amoureux, voilà, il fait...
Oui, madame.
Il exauce ses moindres désirs.
Il prend des risques, surtout, je suppose.
Il prend des risques. Et parfois, ça va loin, parce qu'à un moment, ils vont tomber sur une poule. Ils seront sur un bateau, sur une rivière. Et à un moment, ils voient une poule. Ils vont prendre la poule avec eux. Et elle pense que la poule, en fait, a été envoyée par son oncle, qu'il y a une caméra ou un micro, je ne sais plus exactement. Enfin, soit, ça va loin. Donc, est-elle folle ou pas, telle est la question. la question que Paul va devoir se poser, mais est-ce qu'il se la pose réellement, enfin bref.
Est-ce qu'il est aveuglé ou pas par l'amour, c'est ça hein.
C'est ça, c'est un peu, on est quand même pas mal dans le thriller psychologique aussi quand même.
Oui, clairement.
Ça rappelle un peu ces vieux films qui avaient lieu dans des hôpitaux psychiatriques, etc. C'est pas du tout le décor principal du film. Non. Ça se passe évidemment aussi là-dedans. Mais on est loin de ces films avec plein de docteurs, avec des seringues.
Mais la fille qui crie, ils arrivent. Oh, mais voilà, c'est là.
Non, on n'est pas du tout là-dedans. Fabrice Duhel casse un peu les codes à ce niveau-là et j'ai trouvé ça assez intéressant. Mais voilà, il y a un peu de ça, il y a un peu de ces influences thriller psychologiques. Et surtout, c'est une espèce de grand film d'aventure, si je puis dire.
Road movie.
Sauf que oui, c'est ça, de road movie, sauf que voilà, le cadre est un peu moins joyeux que juste on part à l'aventure, on est deux jeunes enfants et voilà.
Oui, il n'y a pas le côté Wes Anderson comme je disais tantôt.
Non, c'est pas Moonrise Kingdom.
C'est ça.
Hein non, c'est pas ça du tout. On est dans quelque chose de beaucoup plus cérébral et de très cinématographique, dans le sens où voilà, le chef opérateur de Fabrice Duhel, depuis maintenant deux ou trois films, deux, Alléluia et donc Adoration est le deuxième, c'est Manu Dacos, qui est aussi assez connu pour sa photographie.
Bah, régulier au Magritte aussi. Hein,
ah oui, bien sûr. Des photographies assez léchées en général, mais aussi avec pas mal de couleurs. Donc c'est notamment le chef opérateur de KTF Forzani, donc voilà, des gens qui font du giallo, donc forcément quelque chose de très très graphique. Fabrice Duhel adore la pellicule, il déteste le numérique.
Oui.
D'ailleurs, ce sera assez intéressant un jour de vraiment avoir une vraie discussion sur ce débat argentique numérique.
Éternel,
parce que
oui.
Ouais, je pense qu'il y a quand même de très très bons artisans du numérique. Enfin bon, voilà, c'est pas le débat, mais du coup voilà, il y a une patine très
particulière qui lui est
particulière,
proche.
Oui, qui convient parfaitement au film et à l'époque, même si le film est tu sais pas trop quand il se déroule en fait. Il y a pas vraiment d'éléments de temporalité,
mais il y a un petit côté
rétro. Tu sais
pas
dire
si
c'est maintenant, tu sais pas dire si c'était il y a 30 ans. Donc il y a des éléments en fait un peu de diverses époques qui rendent le film intemporel en fait.
Oui.
Ce qui est bien parce que du coup il sera pas trop daté dans 20 ans ou dans 30 ans ou dans plus longtemps que ça. Il a un peu ce côté vieillot mais pas daté, tu vois. Donc ça c'est top. Et évidemment il a cette patine assez superbe en fait, tout simplement. Ce grain qui vient de l'argentique, évidemment, qui est assez génial et qui contribue aussi à donner cette atmosphère et cette ambiance.
Cinéma un peu.
Ouais, cinéma bien sûr, mais aussi qu'on peut rapprocher à des films plus anciens. Du coup, voilà, de par certains artifices, certains outils, il date un peu le film, mais. En tant que tel, tu peux pas vraiment le classer, le dater.
2012 ou je sais pas quoi.
Donc voilà, je trouve ça assez astucieux de jouer avec ça parce que c'est important de faire en sorte qu'un film ne vieillisse pas mal plus tard.
Surtout quand il y a, comme tu dis, une histoire qui ne parle absolument pas de quelque chose de réel. Je veux dire, on n'est pas en train de parler de la crise politique en Belgique ou des trucs comme ça. On est vraiment dans une histoire intemporelle quand on peut raconter cette histoire-là dans 20 ans.
Bien sûr.
Donc c'est très important que ce film justement reste et puisse être vu dans quelques années encore.
Ouais. Les comédiens sont fantastiques. Bon, on sait déjà que... Enfin, Thomas Djuria, il a fait qu'un film avant ça. Hein. C'est Jusqu'à la garde. Il est génial dedans.
Et quel film ?
Je pense que tout le monde s'est accordé pour le dire. Fantine Ardouin aussi, elle était très très bien dans le film de Michael Haneke. C'était déjà pas son premier film, mais elle en avait fait... Elle a fait quelques des épisodes de séries télé, dans Engrenage notamment. Elle était dans Aladdin.
Non.
La version française avec
Will Smith. Oui, d'accord. J'ai eu peur.
Ouais,
c'est
ouais,
Will Smith.
Elle a fait quelques petits trucs, quelques courts-métrages depuis, etc. Mais voilà, c'est surtout dans le film de Michael Haneke qu'elle a été révélée. Puis dans Ennemi public, etc. Mais voilà. Et donc, avec ces deux comédiens, il arrive à... il est arrivé à faire fonctionner son duo de façon optimale. Parce que, alors déjà, Thomas Djuria est génial parce qu'il doit, jouer ce type un peu neuneux qui fait oui,
hein, oui, chérie.
Sans trop se poser de questions. Mm-hmm. Il s'en pose quand même de temps en temps, tu vois, mais voilà, c'est déjà pas évident de jouer ce genre de rôle.
Le mec aveuglé, quoi, c'est ça.
Ouais. Mais je trouve que c'est Fantine Ardoin qui a le rôle le plus compliqué parce qu'elle peut passer d'un moment très calme à de la folie pure en un instant.
Oui.
Et ça, c'est extrêmement compliqué à jouer. Donc,
sans surjouer, bien sûr.
Voilà, c'est ça.
Ça c'est plus
parce qu'à nouveau, c'est ce que je disais en début d'émission, j'ai du mal avec l'hystérie au cinéma. C'est quelque chose de très difficile à supporter, mais surtout à jouer en tant que comédien. Et ben là, Fantine Ardoin, elle y arrive parfaitement bien. Donc, c'est assez génial et remarquable d'arriver à un résultat pareil. Et j'avais envie aussi de mentionner un petit peu rapidement Benoît Poulvord, qui a un petit rôle au début. Au début, quand le projet avait été annoncé, j'ai cru que c'était le rôle principal, etc. Et puis, bon, après, tu comprends que non. Mais il a un petit rôle. Mais alors, quel rôle il joue un gars... qui vit limite en ermite dans la campagne, fasciné par des grues, les oiseaux, hein, pas les machines.
Parce qu'alors il s'est trompé d'endroit pour habiter.
Hein. Ouais, il a un énorme tatouage de grue dans le dos, qui lui va super bien. Et alors au début, les deux, trois premières répliques, j'ai eu un peu de mal, parce que je sais pas si c'était son accent ou je sais pas quoi, mais oui. ça m'a un peu décontenancé. Ouais. Je me suis pas dit ouille, hein, mais j'étais un peu surpris. Et il est génial, il est absolument génial dans le film. Il joue pas très longtemps, mais je trouve que c'est un des plus beaux rôles qu'il ait eu ces dernières années, ça c'est sûr.
Wow.
Parce qu'il est touchant, il est dans la sincérité. Dans,
il est juste, quoi. Oui.
Ouais, vraiment très très bien. Et c'est cool de le voir faire autre chose que de la blague et ce genre de trucs, quoi.
Ou le mec sévère.
Ouais, mais en général, dans tout ce qu'il fait, il y a des moments de comédie. Ici, il n'y en a pas.
Ok.
Donc il est juste génial dans un rôle dramatique.
Du coup, tu donnes combien d'adorations parce que je pense que tu as adoré ce film.
Un bon 3 étoiles.
3 étoiles.
C'est pas le film de Fabrice Duhallès que je préfère. Je crois que je préfère Alléluia. Mmh. Mais je trouve que c'est son film le plus abouti, le plus maîtrisé. Vraiment. C'est une très très belle œuvre qu'il a faite là.
Rendez-vous au Magritte 2021.
Certainement.
Certainement, vu qu'on t'en parle, et vu le casting aussi. Voilà, 3 étoiles pour Adoration, ceci termine notre semaine cinéma. Avant qu'on ne passe en revue les différents films qui sortent cette semaine, je rappelle quand même le concours UGC. Vous pouvez gagner chaque semaine 2 places de cinéma UGC, c'est très simple pour ça, il faut aller sur notre compte YouTube, hein, Cinécast. Il faut vous abonner et sur la... critique de la semaine, c'est Judy dans ce cas-ci. Il faudra liker la vidéo et commenter la vidéo pour tenter de gagner 2 places de cinéma UGC. Et ça, c'est chaque semaine. On termine du coup en passant en revue les films de la semaine. Adoration, on vient d'en parler. 3 étoiles. The Grudge.
Oui, The
Grudge. Pas vu forcément, mais c'est mais de quoi ça parle.
Le troisième remake de Grudge, là, je pense.
Hein. Film d'horreur, hein, bien sûr, bien connu.
Oui, oui. Ça m'étonnerait que ça vaille l'original.
Ça sort en janvier. Donc, les films américains qui sortent en janvier, il faut toujours un peu se méfier. Les Siffleurs, La Gomera, donc film qui était présenté à Cannes. Très bon film, policier, mafieux, avec ce côté sifflement qui est assez original. Judy de Rupert Gould avec René Zellweger, c'est la consécration de René Zellweger, on peut le dire comme ça. En tout cas, certainement un de ses meilleurs rôles, si pas son meilleur, qui lui vaudra sans doute un Oscar. Une Belle Équipe de Mohamed Hamidi avec Kadmerad et Alban Ivanov. Voilà, j'ai tout dit, je pense, comédie française. Hein.
Oui, je pense, là.
Je suis déçu. Mohamed Hamidi, c'est pas celui qui avait fait la vache. Là, je m'avance un peu. Je m'avance un peu, peut-être.
Tu me poses une colle, très honnêtement.
Écoute, c'est pas grave. Et Selfie de Thomas Bideux. Ah oh, oui, mais c'est normal, en fait, c'est le festival de l'Alpe d'Huez maintenant. C'est pour ça qu'on a des comédies qui sortent.
Oui,
et en effet, Mohamed Hamidi, c'est lui qui avait fait la vache et qui a fait Jusqu'ici, tout va bien l'année passée. Vu. Donc, un abonné hein, du festival de l'Alpe d'Huez, lui. Une belle équipe et Selfie, du coup, avec Blanche Gardin et Manu Payet. Donc, vous avez tout ce qu'il faut cette semaine au cinéma.
Ah oui.
Des comédies et puis un bon film belge.
je n'aurais pas dit mieux.
On vous remercie d'avoir écouté Cinécast. On vous dit à la semaine prochaine. Merci pour votre écoute.
Ben oui, un grand merci à tous, parce que vous êtes très nombreux derrière moi.
De plus en plus.
Ouais.
Des bisous.
Des bisous.
Ciao, ciao.